on avance ensemble dans cette série de méditations au sujet des communications ponctuelles, spontanées, surnaturelles, miraculeuses de l'Esprit Saint, ces 9 dons dont Paul parle dans 1 Corinthiens 12 à 14, les pneumatikos, pneuma, esprit, des dons qui sont donnés par grâce, par le Saint-Esprit, comme il veut, quand il veut, à qui il veut. 1 Corinthiens 14, on va lire juste le verset 5 et le verset 13. Pour ne pas que les lectures soient trop longues, je vais aller à l'essentiel. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Juste une grande parenthèse tout de suite, quand l'apôtre Paul dit « celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue », c'est pas au sens de la renommée, de l'importance dans le corps. Vous vous souvenez que nous sommes membres les uns des autres, tout se fait dans l'humilité, dans la soumission réciproque. C'est pas au sens de la grandeur ou de la renommée ou de l'importance de la personne, c'est simplement au sens de l'utilité commune. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus utile, il est plus grand au sens que c'est beaucoup plus utile, puisqu'on va comprendre ce qui est apporté. Voilà, à moins que ce dernier l'interprète, auquel cas ça devient, on va le voir, ça devient l'équivalent d'une prophétie. Verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. On avait regroupé ici les 9 dons dont Paul parle en 1 Corinthiens 12, et nous avions abordé tout un message avec des généralités au sujet des dons. Ensuite, on a fait 2 dimanches sur la prophétie. Je peux absolument pas résumer, vous retrouvez tout sur le site internet et en CD. Puisqu'on est toujours dans les dons d'inspiration, ce matin, je vais vous parler des diverses langues et de l'interprétation des langues. Et on va voir que, bien qu'en apparence ce soit la même chose, il ne faut surtout pas confondre le parler en langue, qui m'est donné par le Seigneur, parler en langue personnelle, quotidien, avec le don des diverses langues. Ce sont 2 choses totalement différentes, mais vous allez voir qu'au final, c'est quand même très simple de s'y retrouver et de faire la distinction. Et bien sûr, on va voir que ce don est indissociable de l'interprétation des langues pour qu'il puisse devenir l'équivalent d'une prophétie. Alors, j'en profite quand même, je prends 5 minutes, je veux quand même absolument faire quelques rappels au sujet du parler en langue personnelle, puisque il faut faire la distinction entre les deux, on va juste reparler du parler en langue personnelle et quotidien, puisqu'en fait, ça fait déjà plus d'un an qu'on avait parlé de ça. Je me suis dit, tiens, une petite révision, on va voir si tout le monde peut-être est bien au clair là-dessus. Le parler en langue personnelle, pas celui qui doit être interprété, le parler en langue personnelle et quotidien, parce que je suis appelé à le faire abondamment, et tous les jours, évidemment, le plus possible. Ce parler en langue-là n'a rien à voir avec le don des diverses langues. Ce parler en langue-là, c'est ce qui m'est communiqué à la réception du baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. À quoi on voit qu'un baptême de l'Esprit est un baptême de l'Esprit? Justement à ce signe miraculeux qui est le parler en langue selon Acte 2. Il y a beaucoup de références. On avait vu ensemble, souvenez-vous, que ce sont des langues claires, on ne les comprend pas, mais ce sont des langues claires, distinctes, on peut les identifier, elles sont reconnaissables. Elles étaient un signe pour les non-croyants à la Pentecôte, acte 2, 8. Elles sont un signe pour les non-croyants dans la pratique du culte, dans l'Église, 1 Corinthiens 14, 10 et 22, puisque Paul dit, toutes ces langues, 1 Corinthiens 14, 10, sont des langues intelligibles. Nous ne les comprenons pas, mais ce sont des langues qui existent, c'est pas du charabia, ce sont des langues intelligibles. C'est un pur miracle, comme tout dans la Bible. J'espère que vous avez bien compris que c'est normal que vous ne compreniez pas ce que vous racontez. Et puis en même temps, je l'ai toujours dit avec un trait d'humour, mais j'insiste, quand on parle en langue, c'est le seul moment où on est sûr de pas dire de bêtises. C'est 100% efficace, quoi qu'il sorte, c'est 100% efficace. C'est franchement merveilleux, merci Seigneur. Un pur miracle, comme tout dans la Bible. C'est l'accomplissement d'une promesse, Pourquoi le parler en langue? Je sais que certains ont encore du mal avec ça. Pourquoi le parler en langue? Parce que la parole, c'est l'arme avec un A majuscule du monde spirituel. Dans le monde spirituel, les choses se règlent par la parole. Voilà. Un jour, dans une réunion, il y avait une personne qui était possédée. Il y a cette personne qui commence à se manifester. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons autorité sur les démons. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Enfin, le pasteur lui dit qu'au nom de Jésus, les démons doivent sortir. Il ordonne à ses esprits de sortir, exactement comme faisait Jésus. Et puis, cette personne est délivrée. Et plus tard, la personne qui était là se donne au Seigneur, elle est délivrée. Elle se donne au Seigneur, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle vit une vie nouvelle, remplie du Saint-Esprit. Et puis, elle raconte son témoignage. Et elle dit que le jour, c'est authentique, le jour où le pasteur a dit « Au nom de Jésus, sortez de ce corps », elle a entendu deux voix distinctes en elle. La première a dit « Pourquoi est-ce qu'on devrait sortir ?» La deuxième voix a dit « Parce qu'il l'a dit, on n'a pas le choix. » C'est juste l'autorité de la parole de Dieu. C'est tout. Dans le monde spirituel, les choses se règlent par la parole. Il n'y a pas de petites épées, le diable n'a pas une fourche, il n'a pas de... Ça se règle par la parole. C'est l'arme avec un A majuscule du monde spirituel. Et puis on a vu que c'est un acte de foi permanent, Jean 7, Marc 16, par lequel j'accepte de céder au Seigneur le Saint-Esprit, le membre le plus puissant, le plus indomptable, le plus redoutable de mon corps, c'est-à-dire ma langue, Proverbe 18, Jacques chapitre 3, juste pour la petite révision entre nous. Évidemment, il y a énormément de bienfaits à se parler en langue, il faut jamais les oublier. Je vous les ai regroupés très rapidement, vous retrouverez tout ça en ligne. Je vous offre le PowerPoint si vous avez une clé USB, si ça vous arrange mieux. Les bienfaits du parler en langue, acte 2 dit « Ils parlèrent des merveilles de Dieu ». Il y a un sens qui est très clair, les gens qui étaient là ont reconnu que dans des langues qui leur était propre, mais que les Galiléens n'avaient jamais apprise, ils parlaient des merveilles de Dieu. Paul dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères, des choses qui sont infiniment au-delà de ma rationalité humaine. Tu rends d'excellentes actions de grâce, 1 Corinthiens 14, voilà ce qui se passe aussi. C'est bon pour la louange, pour l'intercession, pour le combat, c'est bon pour l'intercession. C'est selon Dieu qu'il intercède, Romains 8, dans une pleine harmonie avec la volonté de Dieu. Il y a des moments où on ne sait pas ce qu'il faut demander. Puis on dit, Seigneur, fais-lui grâce. Oui, bien sûr, mais concrètement. Bénis-le, bien sûr, mais concrètement. Et l'Esprit, lui, il sait exactement ce qui doit être demandé. Et je peux intercéder par le Saint-Esprit. C'est un moyen d'intercéder, encore une fois, à 100% efficace, en plein dans le mille, sans jamais être à côté de la plaque. Celui qui parle en langue, encore, autre aspect merveilleux, s'édifie lui-même, littéralement. Il bâtit, il construit ou reconstruit son être intérieur par cet intermédiaire du parler en langue lorsqu'il laisse l'esprit s'exprimer au travers de lui. Le parler en langue, c'est pas une petite chose, c'est quelque chose de très important, c'est beaucoup plus précieux et beaucoup plus important. Le Seigneur s'est pas trompé en nous le donnant, c'est beaucoup plus précieux et plus important que ce que nous pensons. Il faut le pratiquer abondamment, il ne faut jamais, au grand jamais, le négliger. À pratiquer abondamment, et j'ai insisté, je le redis, oui, même dans l'église. Ah, je sais qu'on a du mal avec ça, hein, parce que ça fait peut-être des années qu'on a entendu dire « oui ». Mais l'apôtre Paul a dit « je préfère dire 5 mots avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue », etc., etc. 1 Corinthiens 14 a souvent été interprété en dehors du contexte des Corinthiens. C'est pour ça que parfois il y a eu des dérives et parfois on a tout coupé. Mais oui, même dans l'Église, l'apôtre Paul dit « je parle en langue plus que vous tous ». Il dit bien, on l'a relu encore ensemble tout de suite, « je désire que vous parliez tous en langue ». Je sais que parfois on a fait des distinctions, des chrétiens ou des pasteurs ont fait des distinctions en se disant « le parler en langue, ça doit être pour chez moi dans mon intimité avec Dieu et le don des langues, c'est pour le culte public ». Il n'y a pas un seul texte où l'apôtre Paul dit « le parler en langue, c'est pour chez vous ». Il a dit en parlant à une communauté de croyants « je désire que vous parliez tous en langue ». Il dit à cette communauté de croyants dans son entièreté « n'empêchez pas de parler en langue ». Et il parle dans le contexte de l'assemblée. Bien sûr, il va dire que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et puis, il faut être honnête, quand on lit 1 Corinthiens 14, ben, c'est pas évident toujours de s'y retrouver. Et c'est juste le contexte des Corinthiens qui va nous éclairer. Paul dit que tout, dans tout, il y a aussi le parler en langue. Surtout que Paul n'a jamais dit explicitement qu'on n'avait pas le droit de parler en langue dans l'Église. On peut le faire. Le problème, c'est qu'on a souvent pris le texte en dehors de son contexte. Avant qu'on aille dans le don des langues, je fais une sérieuse aparté là-dessus pour qu'on comprenne bien. Je sais qu'il y a des frères et sœurs, des fois, qui me disent encore « Oui, Stéphane, j'ai reçu, j'ai le parler en langue. J'ose pas parler en langue. » Alors, bah, évidemment que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Évidemment, personne ne vous demande de hurler en langue au milieu. C'est absolument pas nécessaire. Le Saint-Esprit n'est pas sourd. Et moi non plus. Mais, en même temps, là où je suis à ma place, je peux parler en langue. Vous m'entendez? Je ne crie pas. Je prie en français, je prie dans ma langue maternelle, comme dit Paul, je prie par l'intelligence, je prie par l'esprit, je chante par l'intelligence, je peux aussi, ça m'arrive parfois, de chanter par l'esprit, un chant sous l'inspiration de l'esprit. Mais je le fais à ma place, discrètement, mais de façon audible. Et non, il faut pas se dire, ouais, quelqu'un va rentrer, un inconverti, il va dire que vous êtes fou. Non. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Le problème, c'est qu'on a mal compris le contexte des Corinthiens. Et avant qu'on aille plus loin, je vais vraiment faire une pause sur ce contexte. Il faut vraiment comprendre ça. Le contexte des Corinthiens, à l'époque, est un contexte de mysticisme. Les Corinthiens, comme toutes les autres églises, n'ont pas des décennies de pratiques de vie chrétienne, de culte et de rassemblement derrière eux. Ce sont des jeunes églises, d'accord ? Ils n'ont pas d'expérience dans la vie chrétienne. Ils n'ont pas d'expérience dans la pratique du culte. Ils n'ont pas d'expérience dans l'enseignement. Ils n'ont pas d'expérience dans la pratique de la vie du Saint-Esprit et de tous ses dons. La seule conception qu'ils ont, la seule expérience, la seule chose qu'ils ont vue, c'est ce qui se pratiquait dans leur ancienne vie. Et c'est là qu'il faut comprendre le contexte de Corinthe. Corinthe, c'est dans la Grèce. Corinthe est une ville dans laquelle il y a des cultes aux faux dieux à tous les coins de la ville. Et il y a au centre de la ville, il y a un temple qui est dédié à Apollon, un faux dieu. Et dans tous ces faux cultes, et notamment ce culte d'Apollon, j'ouvre une parenthèse, on sait que dans le royaume des ténèbres, le diable a toujours voulu ce que Jésus, le Fils, avait. Donc il y a toujours des contrefaçons. Le diable veut toujours la même chose. Le diable veut ses adorateurs, le diable veut ses miracles. Le diable a une forme de puissance inférieure à celle de Dieu, largement. Amen, il n'est pas tout puissant. Mais dans le royaume des ténèbres, vous trouverez toujours la contrefaçon du royaume de Dieu. Et dans cette contrefaçon, il y avait des prophètes, parce que dans le monde occulte, il y a des messages. Dans le monde occulte, il y a du parler en langue. Alors vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau. Si le Seigneur vous lui dit « Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit », croyez-moi évidemment, c'est pas le diable qui va vous répondre. Dieu est tout-puissant. Mais dans le monde des ténèbres, il y a toutes sortes de contrefaçons. Et dans ces contrefaçons, ces jeunes croyants inexpérimentés, ils sortent de cultes dans lesquels les gens sont littéralement excités, exubérants, agités, mystiques. Ce sont des gens, excusez-moi, je vous le fais pour que vous compreniez, ils sont en transe. Le culte qu'ils ont toujours connu, c'est ça. Et des gens qui tombent, et des gens qui perdent connaissance, et toutes sortes de paroles, et puis beaucoup d'excitation, beaucoup de brouhaha. Et tous ces jeunes Corinthiens, ils découvrent la vie de l'esprit, mais ils ont jamais connu la pratique du culte. C'est nouveau pour eux. Donc, ils reproduisent la seule chose qu'ils connaissent. Et quand Paul leur dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, c'est pas pour tout casser, pour tout couper, pour interdire, pour tout canaliser, pour tout contrôler, pour faire des trucs, toi tu parles en langue chez toi, tu tais, machin, dans l'église, je veux pas vous entendre, faut pas que ça bouge, taisez-vous, soyez silencieux. C'est pas pour ça. Il faut comprendre qu'il parle à des gens, quand il dit « je préfère dire 5 mots » avec mon intelligence que 10 000 en langue, c'est pas pour mépriser le parler en langue. C'est pour dire à des gens qui n'ont même plus l'idée de l'intelligible. Il n'y a même pas de prédication, il n'y a pas de chant dans leur langue, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien. Il y a juste du brouhaha, du bazar. Et en plus, excusez-moi l'expression, ils sont bourrés. Parce qu'ils s'imaginent, dans leur culture, que plus on est en transe, plus on est connecté, plus on est inspiré, plus ça a l'air spirituel. Et comme vous savez que l'alcool, ça nous aide toujours à même petit coup à ouh, on sent un petit peu tout, voilà. Eh ben, ils prennent la Sainte Seine. Paul leur dit, je paraphrase, mais quand vous arrivez à la table du Seigneur, vous en avez tous un coin dans le nez, parce que vous avez fait votre agape, chacun est venu avec ses machins, vous avez mangé, vous avez fait votre truc, vous en avez tous un coin dans le nez, vous arrivez à la table du Seigneur et vous tenez même pas droit sur vos jambes parce que vous êtes bourrés. Excusez-moi l'expression. Et ils y allaient sur l'alcool aussi parce que tout ça, c'était les pratiques du culte païen. Vous comprenez que c'est à ces gens-là que Paul dit, faudrait quand même que ça se fasse avec bienséance et avec ordre. Je vous demande d'imaginer, j'illustre un niveau. Je sais que l'équilibre, il est toujours très fragile. C'est difficile, l'équilibre. J'en suis conscient. Mais l'équilibre, il existe par le Saint-Esprit. Et cet équilibre-là, imaginons qu'il soit là, à hauteur de mes yeux. Voilà, vous imaginez une ligne d'équilibre. Les Corinthiens, eux, ils sont incroyablement au-dessus, exubérants, excités, agités, trop expansifs, il n'y a plus rien pour l'intelligible, ça devient du n'importe quoi, et on n'arrive plus à faire la différence entre le culte à Dieu et le culte qui se passe dans le temple d'Apollon. Et c'est là que Paul dit, mais si quelqu'un rentre, il va dire que vous êtes vraiment fou. Ok ? C'est pas pour les gens qui parlent en langue dans l'église, c'est pour les Corinthiens qui sont vraiment au-dessus, c'est-à-dire dans une sphère de mysticisme que vous pouvez même pas imaginer. Quelque part, l'épître aux Corinthiens, elle vous concerne pas. Parce que nous, on n'est pas au-dessus en mysticisme. Nous, pardon, hein, on sait franchement en dessous. Puis il faudrait qu'on se lâche un peu, quoi. Et c'est à eux, dans ce contexte, que Paul dit « Je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 en langue. » C'est à eux, dans ce contexte, que Paul dit « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » C'est, voilà, c'est toujours dans ce contexte-là que Paul dit, et c'est pour ça qu'il dit aussi, il est clair, « Je veux que vous parliez en langue, que personne ne vous empêche de parler en langue, mais que ce soit pas l'anarchie. » Vous pouvez le faire simplement, calmement, librement. Vous le faites à votre place. Et quand vous ne parlez pas en français, ben plutôt que de vous assoupir ou de penser à autre chose, ben priez en langue, là, tranquillement à votre place, et d'autres pensées viennent, et d'autres choses vont venir dans l'intercession, dans la louange en français. Vous le dites au Seigneur, puis quand il n'y a plus, ben je me remets à parler en langue. Je prie par l'intelligence et par les langues. Et quand il n'y a plus rien, eh ben je recommence à parler en langue, et quelque chose d'autre vient, et comme ça, je suis maintenu. Je suis toujours dans l'activité spirituelle de la louange, de l'intercession, et ça évite que, excusez-moi, vous le savez très bien, au bout de 30 secondes, bah une fois que j'ai dit merci au Seigneur pour mon salut et pour quelque chose de tout mon cœur, hein, c'est sincère, bah après, on a le temps long. Alors, ça c'était la grande parenthèse, la grande aparté, pour qu'on soit bien clair là-dessus. Maintenant, on parle du don des langues. Je ne peux pas confondre le don des langues, ce don spirituel, ce pneumatikos, et le parler en langue personnel quotidien. Le parler en langue personnel quotidien, le Seigneur vous l'a donné le jour de votre baptême dans le Saint-Esprit, il vous appartient, vous parlez en langue, comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, et le temps que vous voulez. Si vous voulez jamais parler en langue, vous l'avez vu, vous vous privez de beaucoup. Si vous parlez abondamment en langue, il y a beaucoup de choses par l'esprit qui vont pouvoir se passer en vous et en dehors de vous. Mais c'est vous qui décidez. Vous voulez parler 5 minutes, c'est 5 minutes. Vous voulez vous enfermer 1 heure ou aller dans la forêt, parler 1 heure, 2 heures en langue et rester dans la communion du Saint-Esprit. C'est vous qui voyez. Le Seigneur vous l'a donné. Il vous appartient. Pourvu que vous en fassiez un bon usage, bah de toute façon, c'est à vous. Vous choisissez. Le dénominateur commun des dons spirituels, y compris du don des langues, comme la prophétie, c'est qu'il ne m'appartient pas. Il doit se faire sous une inspiration ponctuelle et une inspiration, une impulsion, je dirais même, du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai mis, il y a une spontanéité du message en langue. C'est pas mon parler en langue quotidien habituel. Comme pour la prophétie, c'est un message qui n'est pas calculé. Je n'arrive pas à l'église en me disant, tiens, aujourd'hui, je... non, ça ne marche pas. C'est non calculé, c'est pas préparé, c'est pas décidé à l'avance. C'est sous l'inspiration de l'esprit, sous l'impulsion de l'esprit, une manifestation précise, un message précis à un instant précis, pour une circonstance précise, sous l'impulsion de l'esprit. Comme pour la prophétie, celui qui va devoir apporter quelque chose va ressentir cette pression, parce que c'est pas destructeur, hein, j'ai mis des guillemets, cette pression, cette douce pression de l'esprit qui fait que, vous savez, ce genre de pensée, comme pour la prophétie, de toute façon, tant que vous l'avez pas apporté, ça vous lâche pas. Et vous êtes pas tranquille. Et si vous l'avez pas apporté, vous avez une pensée de regret, le Seigneur vous aime toujours, il va pas vous foudroyer, il est assez grand pour confirmer, pour secourir. Amen. Mais vous avez ce petit regret que là, vous dites, ah, je savais ce matin que j'avais quelque chose et, j'ai pas osé. Il y a une pression de l'esprit. Est-ce que jusque-là, ça va? Comment savoir si je dois apporter un don en langue? Comment savoir s'il y a quelque chose qui est différent de mon parler en langue habituel? Il y a ce premier élément, la spontanéité, l'impulsion particulière de l'esprit, cette inspiration spécifique. Il y a aussi un autre moyen d'identifier. L'apôtre Paul est clair, dans 1 Corinthiens 12, on ne l'a pas relu, il parle bien des diverses langues, c'est au pluriel. Les diverses langues, c'est un pluriel. Ce qui m'amène à considérer que non, c'est pas toujours pareil. C'est un indicateur. Si à un moment, ce que j'apporte publiquement en termes de parler en langue, c'est la même chose que dans mon parler en langue perso quotidien, c'est pas mal, parce que de toute façon, le parler en langue, il glorifie Dieu. Et même si quelqu'un, même si ça arrive des fois, on a tendance un peu à se répéter en langue, on dit un peu des fois toujours les mêmes choses, plus ou moins. Déjà, il faut surtout pas le mépriser, parce que la personne, Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, souvenez-vous, ce n'est que par l'esprit qu'on peut dire Jésus est le Seigneur. Ce n'est que par l'esprit qu'on peut confesser des choses. La personne qui dit peut-être un peu toujours la même chose en langue, ben, elle est peut-être juste en train de dire Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. C'est magnifique. Et les démons, ils tremblent. Nous, on est là, on se dit, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et les démons, ils disent, oh purée, on en a encore pris un coup, oh, on en a encore pris un coup, oh, on peut rien faire contre ça, oh, on peut rien faire contre elle. Alors, il faut surtout pas le mépriser. Mais par contre, on peut s'apercevoir que c'est probablement un manque de pratique, parce que dans la pratique du parler en langue, le parler en langue est appelé à se développer pour devenir une langue complète et même devenir ensuite une deuxième, une troisième, une quatrième langue. Il n'y a pas de limite à ce que le Saint-Esprit peut nous faire parler. Et si on a parlé les mêmes choses, ben on a dit forcément des choses bonnes dans tout ce que, évidemment, j'ai partagé tout à l'heure. Mais ça veut dire que j'ai pas suffisamment développé. Je me suis contenté de mon béaba, ben peut-être comme un enfant qui se contente de quelques phrases fondamentales à la maison autour de papa, maman, papa merci, papa je t'aime, papa j'ai faim, papa il y a des tas de choses qu'il peut dire, papa t'es super, t'es le plus beau papa de la terre, maman t'es la plus belle du monde, et les enfants ils disent ça, alors c'est super, mais c'est limité. Et parfois dans le parler en langue c'est la même chose, c'est limité. Et il faut absolument, par la pratique, le développer chez soi. Et j'ai mis ça, c'est vrai, c'est normal que l'on ne comprenne pas les langues, quelles qu'elles soient. Par contre, à force de les pratiquer, on peut les identifier. On peut les reconnaître. Alors, il y en a qui me font, puis d'autres qui me font. C'est pas grave, on est une famille, chacun a son rythme. Je m'explique, c'est pas un reproche. Si vous ne pratiquez pas le parler en langue chez vous, sérieusement, abondamment, pour le développer, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis maintenant. Parce que c'est seulement dans la pratique abondante que je vais pouvoir identifier des langues. Je les comprends pas, mais je peux les identifier. Si vous entendez un Allemand et un Espagnol qui parlent, vous y comprenez rien. Mais vous savez l'allemand, le danois, vous savez ce genre de langue, vous savez quelles sont les sonorités. Ça vous dit quelque chose quand même. Vous faites, même dans votre ignorance, vous n'avez jamais appris l'allemand, vous n'avez jamais appris l'espagnol. Mais vous savez que ça, c'est plutôt de l'espagnol ou de l'italien, enfin, voilà, ce genre-là. Et là, c'est plutôt de l'allemand, c'est du guttural, c'est Heinz Weidreich. Vous dites, oui, d'accord. Effectivement, c'est pas la même chose, ça sonne pas pareil du tout. D'accord. Vous pouvez les reconnaître. Et à force de pratiquer les langues, vous pouvez les reconnaître. Un jour, je suis allé voir quelqu'un, et je savais, avant la visite, je savais que cette personne, elle était chargée spirituellement. Il y avait du mauvais à l'intérieur, je savais. Je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas si ça allait se révéler, se manifester ou pas. Je savais que cette personne, elle était chargée à l'intérieur. Donc, en allant dans la voiture, je dis, ben Seigneur, en ton nom, on a victoire, on a autorité, je sais pas ce qui va se passer, mais tu permets que j'ai ce contact. Moi, je vais y aller et je vais apporter Jésus-Christ avant toute chose. Et puis, je commence à parler en langue parce que on peut pas faire du spirituel avec de l'humain. Donc, je suis au volant de ma voiture, je vais vers ma visite, j'entends mon GPS, j'arrive à parler en langue, à conduire, à faire gaffe aux panneaux GPS, parce que Paul dit, quand je parle en langue, mon intelligence n'est pas accaparée, elle est stérile, elle est disponible. Merveilleux Seigneur, c'est le seul moment où j'arrive à faire deux choses en même temps dans ma vie. Vous demandez à Anne, si le seul moment où j'arrive à faire deux choses en même temps, c'est quand je parle en langue et je fais autre chose en même temps. Parce que sinon, avec l'intelligence, moi je suis unitâche. Les sœurs, elles sont bitâches. Moi, je suis un truc à la fois, pas deux. Et pas de problème et pas de pensée. Par contre, quand je parle en langue, ça tourne, et je fais attention à tout le reste. Et au moment où je parle en langue, alors que par la grâce de Dieu, dans la pratique personnelle, j'ai parlé, j'ai parlé des tas de langues que au fur et à mesure des pratiques, des années de pratique, j'ai pu identifier. À ce moment-là, le Seigneur, l'Esprit, je savais qu'il y avait, c'était par rapport à cette situation. En l'espace de 20 minutes, il m'a fait parler deux langues que j'ai identifiées comme des langues nouvelles. Je n'avais jamais parlé ces langues-là. En plus, il y avait une intensité, il y avait de l'autorité. Ça sortait de mes tripes, ça me saisissait ici. Et quand je suis arrivé, au moment où je me suis garé, pouf! Les langues se sont arrêtées, je suis repassé à mon parler en langue habituelle. Je dis, ok Seigneur, je sais pas ce qui va se passer. C'est moi le plus fort, j'ai gagné. Et quand je suis arrivé, la personne, elle a fait, je voulais qu'on parle de ça et de ça et de ça, maintenant on va parler de ça. La personne qui était là lui disait, il faut que tu parles de ça, dis au pasteur, Jésus veut te libérer, tu sais que t'as un problème, vas-y, dis-le. Et elle a dit, non, on parle pas de ça, partez s'il vous plaît, sortez de chez moi. Je dis, ok monsieur, ben, je vais m'en aller. Et quand il m'a vu, c'est pas mes cheveux qui lui ont fait peur. À force de les pratiquer, c'était l'exemple, à force de les pratiquer, frères et sœurs, on peut les reconnaître. D'accord ? Donc pour le don des langues, il y a cette inspiration spécifique, cette impulsion spécifique de l'esprit, et on peut quand même les identifier. Il y a le ressenti personnel qui est là, et il y a aussi l'identification de cette langue. Voilà simplement, c'est juste ça, hein, c'est pas compliqué. Voilà comment je fais la différence entre mon parler en langue personnelle et un message spécifique en langue qui est destiné à l'assemblée. Voilà. Et ça, je vous le redis encore, Paul a dit, aspirez aux dons les meilleurs, c'est accessible à tout croyant baptisé dans le Saint-Esprit, c'est accessible. Le don d'interprétation, ah oui, bah inévitable. Un don, un message en langue, ah oui, il y en a peut-être qui sont en train de se dire, faites-moi penser, hein. Il y en a peut-être qui sont en train de se dire, mais oui, mais si c'est pareil que la prophétie, pourquoi le Seigneur y permet? Je vous réponds après. Parce qu'il y a des raisons, hein, le Seigneur, il fait rien par hasard, hein. Le don d'interprétation, c'est aussi une manifestation spontanée de l'esprit, sous l'impulsion de l'esprit. Ce don, il est indissociable du don des diverses langues. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, forcément, le don est incompréhensible, il est inefficace. C'est pour ça que Paul insiste, verset 13, pour que le don soit interprété, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Parce que sans interprétation, le don des langues est inefficace, il ne peut pas atteindre son but. Mais ça, c'est très simple, je ne m'étends pas là-dessus. Vous l'aviez compris naturellement. Alors, ensuite, le don d'interprétation. Parfois, on m'a dit, mais moi, j'ai remarqué que la longueur du message en langue et la longueur de l'interprétation n'étaient pas tout à fait les mêmes. Je vous ai dit la semaine dernière, dans le cadre de la prophétie, frères et sœurs, nous sommes appelés à estimer, mais on n'est pas des chirurgiens, d'accord ? On ne va pas disséquer, on est bien d'accord. Il faut comprendre que l'interprétation, frères et sœurs, n'est pas nécessairement du mot à mot. Ce n'est pas du mot à mot. Le Seigneur, dans l'interprétation comme dans la prophétie, il communique surnaturellement, spontanément, il communique à la personne la pensée. La personne va, avec ses mots à elle, apporter cette pensée. L'idée, le but de ce don d'interprétation est de restituer le plus justement possible la pensée du message qui a été donné en langue. C'est de restituer le plus justement possible la pensée du message qui a été donné en langue. Donc c'est la pensée qui est donnée. Par contre, c'est comme pour tout le reste, plus on pratique, plus on a une communion authentique avec le Saint-Esprit, plus on a une intimité avec le Saint-Esprit, plus il va y avoir des communications qui seront de plus en plus claires. Vous savez, s'il y a une antenne émettrice et que vous êtes un petit peu loin, je vous l'ai dit, c'est comme avec la prophétie. Le poste radio, il va recevoir des ondes, mais le poste radio, en plus du message, il va y avoir des... C'était ça, mais plus la personne va être dans la communion, dans l'intimité, dans la proximité du Saint-Esprit, qui est le seul vrai émetteur, c'est pas moi, ça vient de lui, et plus la pensée va être claire, précise, nette, distincte, et par conséquent précise. Et même si c'est pas de la récitation, je suis pas un robot, mais par contre, je peux être tellement proche du Saint-Esprit que la pensée va devenir la plus précise possible. Je vous ai mis intimité, communion, écoute, j'aurais pu mettre proximité du Saint-Esprit, nous permet d'être de plus en plus précis. Un jour, c'était dans son église, une femme, elle est anglaise, elle connaît rien aux langues africaines. Vous savez qu'en Afrique, il y a des centaines de langues et de dialectes. Elle connaît absolument rien. Et puis, ce jour-là, il y a un jeune du Burkina Faso, qui est de passage, il est là. Et le Seigneur le cherche, il a un rendez-vous avec lui. Et puis, cette sœur anglaise, qui ne connaît pas plus le moré, la langue du Burkina Faso, c'est le moré, elle, avec deux os, elle ne connaît pas le moré, pas plus que vous et moi, d'un seul coup, sous impulsion, inspiration de l'esprit, elle commence à parler une langue, tout le monde se dit, ah, on dirait bien que c'est un truc qui vient d'Afrique, mais quoi exactement? Bon. Et elle apporte ça. Puis le pasteur fait ce que la Bible dit, c'est-à-dire qu'on encourage à ce que ce soit interprété. Et il y a une interprétation qui vient, et le jeune, à la fin du culte, il vient voir le pasteur, il dit, s'il vous plaît, vous pourriez me présenter la dame qui a parlé en moré? Ben oui, c'est la dame qui est là, etc. Mais elle a appris le moré. Elle dit, ben je ne crois pas, on va aller lui demander. Elle connaissait pas un mot de moré, elle savait même pas quelle langue elle avait parlé. Et il lui dit, mais surtout ce qui m'intéresserait, ce serait que vous me présentiez son interprète. Parce qu'il était tellement scotché, c'est pas au mot près, mais tellement ça collait, l'interprétation avec le parler en langue, tellement ça collait, forcément c'était un signe. Ça peut être bénéfique pour l'assemblée pour différentes choses, mais c'est aussi un signe aux yeux des non-croyants. Un jour, dans une autre assemblée, il y a des dizaines d'exemples comme ça, j'en donne qu'un deuxième, après j'arrête. Dans un rassemblement d'église pentecôtiste, il y avait un frère, un pasteur baptiste, qui était très, très, très réticent, je le dis sans jugement, qui était très, très réticent à toute la question des manifestations spirituelles de l'esprit, les parler en langue, etc. Très réticent. Et puis un jour, il se retrouve dans une congrégation pentecôtiste, et puis il est là. C'est un frère qui est d'origine juive, qui parle très bien l'hébreu, et qui est parfaitement bilingue hébreu-français. Puis il est là dans la congrégation, il est là dans le rassemblement, le culte pentecôtiste d'une certaine église, je ne sais plus où, peu importe. Et puis, d'un seul coup, pendant le culte, quelqu'un qui ne connaît pas plus l'hébreu ou le grec, ou le chinois ou le russe que vous ou que moi, se met à parler dans un hébreu le plus parfait, le plus absolu, le plus parfait qui soit. Et une personne derrière interprète cet hébreu. Et vous savez que l'hébreu, c'est comme le russe, c'est comme le chinois, ce sont des langues qui sont extrêmement compliquées. C'est pas de l'anglais, hein. I love you, you love me, on est d'accord, you agree, I don't agree. C'est pas de l'anglais, hein. L'hébreu, le russe, le chinois, ces langues-là, c'est hyper, hyper complexes. Même les gens qui les apprennent ont un mal fou à les parler convenablement, tellement c'est pointu. Et là, une personne se met à parler un hébreu le plus parfait qui soit. Lui étant bilingue, étant d'origine juive, il dit, il y a quelqu'un de ma nationalité. Donc après le culte, il essaye de voir la personne. Et ce qui le scotche encore davantage, c'est pas forcément celle qui a parlé en hébreu, c'est celui ou celle, je sais plus, qui avait interprété, qui avait donné une pensée qui était d'une précision. Dieu est grand. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, et il montrera, il manifestera toujours sa gloire, parce que vous avez des âmes, converties ou non, qui ont des besoins phénoménaux. Et ce jour-là, ce brave frère Baptiste qui était, je ne juge pas, dans une profonde réticence que je peux comprendre, moi j'ai passé 18 ans dans la réticence au parler en langue, et au don de l'esprit, je vous l'ai déjà dit, il était extrêmement réticent, je peux le comprendre, quand il a entendu ça, il a dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est pas des farfelus, il y a vraiment quelque chose, je vais creuser le sujet. Dieu parle comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Alors, il peut y avoir cette précision de la pensée qui est apportée simplement parce que je suis dans l'intimité et j'ai cultivé cette communion, cette proximité du Saint-Esprit pour que le message soit le plus clair et le plus limpide, le plus pertinent, le plus incisif possible. D'accord ? Le don des langues et l'interprétation, d'après ce qu'on a lu au verset 5, vont être l'équivalent de la prophétie. Que l'Église en reçoive l'édification. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et dans ce cas, le message apporté en langue, puis interprété par le don pneumatikos d'interprétation, eh bien, va de toute façon édifier, exhorter, consolé, s'il avertit ou reprend, ce sera forcément, comme pour la prophétie, dans l'esprit de la grâce, dans le but de sauver, de restaurer, de relever, de rétablir, d'attirer, etc., etc., pour le salut, pour l'encouragement, pour le bienfait de celui qui reçoit le don. Et puis aussi, verset 31, vous le savez, que tous soient édifiés et exhortés. Alors, je termine juste avec ça. Oui, c'est... Il y a une impulsion et un objectif similaire à la prophétie. Pourquoi est-ce qu'il y a deux formes différentes? Puisqu'il y a des prophéties. À quoi ça sert, Seigneur, qu'il y ait des parler en langue interprétées? Donne le message directement. Pourquoi un message en langue interprété? Seigneur, donne le message directement. On va peut-être gagner 5 minutes avant d'aller manger, du coup. Premièrement, vous savez que, ça c'est pas un Corinthiens 14, mais c'est à la lumière de tout le contexte biblique et de la connaissance de Dieu que l'on peut dire ça, vous savez que Dieu se plaît toujours à agir et à se révéler de différentes manières. Dieu ne fait jamais les choses de la même façon. Le Saint-Esprit est une personne diversifiée, riche, varié, il y a tellement de choses, et Dieu le Saint-Esprit se plaît à agir et à se révéler de différentes manières, première chose. Deuxième chose, ça c'est pas dans 1 Corinthiens 14, si je connais le Seigneur, je connais aussi la nature humaine, c'est biblique. Peut-être qu'on a quand même une sérieuse tendance à s'habituer à tout. Et du coup, le Seigneur peut réellement, par un parler en langue qui est, je veux pas dire foudroyant, mais vous avez compris, qui est vraiment inspiré, on ressent quelque chose, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est fort, pas dans la voix, mais c'est fort dans le cœur, on sent qu'il y a quelque chose qui est là, je sais pas vous, mais moi ça attire mon attention et ça m'oblige à être d'autant plus attentif. Parce qu'il y a des moments, quand il y a une prophétie, mais de toute façon c'est elle, on la connaît, d'accord. Je suis sûr qu'il y a effectivement une façon ici pour Dieu, premièrement d'agir et de se révéler de différentes manières, mais aussi d'attirer notre attention. Troisièmement, puisqu'il attire notre attention, ça va nous amener à le chercher plus. Paul dit que celui qui, lorsqu'il y a eu un don, verset 13, qu'il prie pour recevoir l'interprétation. Je vous ai mis aussi tout à l'heure dans le PowerPoint les versets 27 et 28. Oui, nous sommes appelés à prier, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher Dieu et être obligé de chercher la pensée de Dieu. On va devenir d'autant plus actif, d'autant plus acteur pas seulement des récepteurs ou des spectateurs, mais on va devenir actifs dans la recherche de la pensée de Dieu. Puis on va dire, Seigneur, celui qui parle en langue va dire, Seigneur, donne-moi ta pensée, ou à quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Les autres vont être là, vont dire, ah, il y a quelque chose. Seigneur, on a besoin de ta voix. Seigneur, donne la pensée. Seigneur, bénis, encourage la personne qui peut-être va devoir la porter, etc., etc. Ça m'oblige à chercher Dieu de façon plus active, plutôt que de rester toujours attentiste. Et puis, on n'oublie pas, mais je refais pas les exemples, je vous les ai donnés tout à l'heure, on n'oublie pas que les langues sont un signe pour les non-croyants. Et tout simplement. Vous vous dites, ben, pourquoi il y a eu un message en telle langue et puis il y a eu une interprétation? Ben, simplement parce qu'il y a une personne qui a pu constater, et attester que, effectivement, c'était bel et bien une parole surnaturelle inspirée du Saint-Esprit. Amen. Voilà pour les grandes lignes, pour les dons d'inspiration, prophétie, diverses langues, interprétation des langues. L'apôtre Paul dit, je vous le rappelle, je vous exhorte aussi pour cela, frères et sœurs, aspirez aux dons, cherchez ce qui est vrai, cherchez ce qui est authentique, cherchons la communion du Saint-Esprit, cherchons ses communications. Il y a tellement, tellement de bienfaits du Saint-Esprit et de ce qu'il veut nous donner au travers de la prophétie et au travers d'un message en langue interprétée. Amen.